« Vous nous avez fait marcher à un train de chevaucheur, mon neveu !» lui dit Valois en mettant pied à terre. Ils n'eurent que le temps de revêtir les vêtements spécialement préparés pour la cérémonie et qu'avait commandé l'argentier Geoffroy de Fleury. Le régent portait une robe ouverte, d'étoffe fleur de pêcher, doublée de 226 ventres de menu vert. Charles de Valois, Louis d'Evreux, Charles de la Marche ainsi que Philippe de Valois, qui était aussi de la fête, avaient reçu chacun en présent une robe de camocas pareillement fourrée. Lyon, tout pavoisé, grouillait d'une foule innombrable venue pour assister au défilé. Jean XXII arriva à la primatiale Saint-Jean à cheval, précédé par le régent de France. Toutes les cloches de la ville sonnaient à la volée. Les rênes de la monture pontificale étaient tenues d'un côté par le comte d'Evreux et de l'autre par le comte de la Marche. La monarchie française encadrait étroitement la papauté. Les cardinaux suivaient. Le chapeau rouge posé par-dessus la chape et retenu sous le menton par les brides nouées. Les mitres des évêques scintillaient au soleil. Ce fut le cardinal Orsini, descendant du patricia romain, qui posa la tiare sur le front de Jacques de Haize, fils d'un bourgeois de Cahors. Guccio, bien placé dans la cathédrale, admirait son maître. Le petit vieillard au menton maigre, aux épaules étroites, que l'on croyait mourant 4 semaines plus tôt, supportait sans peine les lourds attributs sacerdotaux dont on le chargeait. Les rites pharaoniques de cette interminable cérémonie qui le plaçait tellement au-dessus de ses semblables et faisait de lui le symbole de la divinité, agissaient sur sa personne presque à son insu et répandaient sur ses traits une majesté imprévisible, impressionnante et plus évidente à mesure que se déroulait la liturgie. Il ne put néanmoins se défendre d'un léger sourire lorsqu'il chaussa les sandales pontificales. Scarpinelli, il m'appelait Scarpinelli, le cardinal Petit Chausson, pensait-il. Il me faisait passer pour fils de savetier. Je les porte maintenant, les petits chaussons. Seigneur, vous m'avez mis si haut que je n'ai plus rien à désirer. Je n'ai plus qu'à m'efforcer de bien gouverner votre Église. Cet ambitieux, à présent que toutes ses ambitions étaient exaucées, ce fourbe, dont toutes les fourberies avaient réussi, se trouvait disponible pour la perfection dans la magistrature suprême. Le même jour, des lettres de noblesse furent conférées à son frère Pierre d'Huez par le régent. La famille du pape, selon l'usage, devenait noble. Mais l'acte que Philippe de Poitiers avait dicté lui-même, s'il était destiné à honorer le Saint-Père à travers son frère, définissait aussi la pensée et l'attitude fort peu traditionnelle du jeune prince quant au droit à la noblesse. « Ce ne sont pas les biens de famille, » avait-il écrit dans ses lettres, « ni la richesse de fête, ni les autres attentions de la fortune, qui ont aucun titre dans le concert des qualités morales et des actions méritoires. Ce sont là des choses qu'un certain hasard accorde aux méritants comme aux imméritants, qui arrivent aussi bien aux dignes qu'aux indignes. En revanche, chacun s'établit comme fils de ses œuvres et de ses mérites propres, tandis qu'est de nulle importance d'où nous pouvons venir, si tant est que nous sachions même de qui nous venons. » Valois frémissait d'irritation en entendant de telles assertions qu'il jugeait subversives et scandaleuses. Mais le régent n'avait pas fait tant de chemin ni donné au nouveau pape de si grandes marques d'estime pour ne rien obtenir en retour. Entre ces deux hommes, que séparait un demi-siècle d'âge, « Vous êtes l'aube, monseigneur, et je suis le ponant, » disait de Haize à Philippe, existaient des affinités certaines et une subtile entente. Jean XXII n'oubliait pas les promesses de Jacques de Haize, ni le régent celles du comte de Poitiers. Aussitôt que le régent aborda la question des bénéfices ecclésiastiques, dont les annates, c'est-à-dire la première annuité, devaient revenir au trésor, le nouveau pape fit apporter les pièces prêtes à la signature. Mais avant que les sceaux ne fussent apposés, Philippe eut une conversation particulière avec Charles de Valois. « Mon oncle, » demanda-t-il, « avez-vous à vous plaindre de moi ?»« Non, mon neveu, » dit l'ex-empereur de Constantinople. « Le moyen d'aller répondre à quelqu'un que le seul grief qu'on ait contre lui, c'est son existence. »« Alors, mon oncle, si vous n'avez pas à vous plaindre, pourquoi me desservez-vous ? Je vous avais assuré, quand vous m'avez remis les clés du trésor, que les comptes ne vous seraient pas demandés, et j'ai tenu parole. Vous, vous m'avez juré hommage et fidélité ? Mais vous ne tenez point votre foi, mon oncle, car vous soutenez la cause de Robert d'Artois. » Valois fit un geste de dénégation. « Vous faites mauvais calcul, » poursuivit Philippe, « car Robert va vous coûter fort cher. Il est un pécunieux. Il ne tire ressources que les revenus que lui sert le trésor et que je viens de lui couper. C'est donc à vous qu'il va demander subside. Où les trouverez-vous, puisque vous n'avez plus les finances du royaume ? Allons, ne vous crêtez point, ne devenez point rouge, ni ne vous laissez aller à des paroles grosses que vous regretteriez, car je veux votre bien. » Donnez-moi l'assurance de ne plus aider Robert, et moi, de mon côté, je m'en vais demander au Saint-Père que les annates du Valois et du Maine vous soient versées directement, et non au trésor.